VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mardi 22 mars 2016. Au sommaire ce soir.
Tragédie à Bruxelles, des attentats terroristes font des dizaines de morts et plus d'une centaine de blessés, plus de 200 blessés. Le gouvernement belge parle d'un moment noir pour la Belgique.
L'explosion a eu lieu au niveau de la station Malbec. C'est la station juste après Schuman, là où il y a les bâtiments des bureaux européens, tout ça. C'était une vision apocalyptique. C'était horrible.
Un témoin nous raconte ce qu'elle a vu au métro de Malbec, scène de l'une des explosions.
Présidentielle au Niger, la commission électorale annonce la réélection de Mahamadou Issoufou, mais l'opposition se prépare pour la résistance civile.
Dernier jour de la visite historique de Barack Obama à Cuba, le président américain devait rencontrer un groupe de dissidents et il s'est adressé au peuple cubain avant de s'envoler pour l'Argentine.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
En Belgique, un deuil national de 3 jours est décrété après les attaques qui ont fait au moins 34 morts et plus de 200 blessés à l'aéroport et dans le métro à Bruxelles. Ces attaques ont été revendiquées par le groupe État islamique. L'aéroport de Bruxelles-Zaventem est fermé jusqu'à nouvel ordre et le trafic du métro est suspendu. Pour un témoignage, Idriss Fall a joint Alphonsine Sorozo qui se trouvait dans la rame du métro au moment de l'une des explosions.
Je me trouvais dans la rame des métros. L'explosion a eu lieu au niveau de la station Malbec. C'est la station juste après Schuman, là où il y a les bâtiments des bureaux européens, tout ça. Avant que je prenne les métros à la station où je la prends habituellement, je venais d'apprendre qu'il y a eu une explosion à Zaventem, l'aéroport. C'est une dame qui était à côté de moi qui m'a parlé de cette information. Et nous avons commenté sur le chemin avec ce qui s'est passé dernièrement, l'arrestation du dernier terroriste qui était recherché par la Belgique. On se demanda la suite qu'il allait donner. Et ça n'a pas fait 5 minutes. L'explosion a eu lieu. On était tous sous le choc. On avait une boule de feu. Puis, bon, la panique, on s'est levé. Le temps de trouver une issue de sortie, il y a eu une deuxième explosion. Et là, bon, les vitres, normalement, on commençait à casser les vitres pour pouvoir s'extraire des voitures et métro. Donc, on est sorti. On a cherché la première sortie pour accéder à la surface.
Vous avez vu des morts avant?
Ah oui. Déjà dans les tunnels, oui. À ma gauche, j'ai vu un homme qui était étendu, il était déjà mort. Il y avait des morceaux de chair humaine. L'horreur qu'on voit, c'était une vision apocalyptique. C'était horrible.
Alphonsine Sorozo, rescapée de l'attaque du métro à Bruxelles, que nous écouterons un peu plus longuement dans la partie magazine de cette émission.
Après les attentats terroristes de ce matin à Bruxelles, les transports ont été interrompus et les habitants conviés à ne pas se déplacer. Au micro de Jacques Aristide, Henri Désiré Ndjouzi, consultant en relations internationales d'origine congolaise, vivant dans la capitale belge, évoque l'atmosphère qui y prévaut.
Le pays est sous le choc parce que ce qui s'est passé ce matin est totalement inédit. Dans les annales de ce pays. C'est vrai que depuis quelques mois déjà, en fait, depuis le premier lockdown qui datait de novembre, il y avait déjà dans l'esprit des Belges une sorte d'attente un peu inquiétante par rapport à ce qui pouvait arriver. Il y a eu une surcommunication des autorités pour mettre en garde de la population, ce qui a provoqué malheureusement une sorte de panique. Passer cette épisode difficile, il a fallu évidemment reprendre une vie normale.
Et vous-même, en tant que citoyen belge, comment vivez-vous ces moments d'horreur que traverse la Belgique ?
C'est un moment extrêmement difficile et c'est la raison pour laquelle le gouvernement multiplie les appels à la solidarité, mais surtout à la responsabilité.
L'analyste Henri-Désiré Ndjouzi, joint à Bruxelles. L'intégralité de cet entretien est à retrouver sur voaafrique.com.
Réaction sur la scène internationale, Londres déconseille à ses ressortissants de se rendre à Bruxelles, sauf raison impérative après les attentats qui ont frappé la capitale belge, a annoncé 10 Downing Street. Les pensées et les prières du peuple américain se portent vers le peuple belge, a déclaré le président Barack Obama au début d'un discours à Cuba.
We will do whatever is necessary to support our friend and ally Belgium
Le président américain a promis que les États-Unis vont tout faire pour aider leurs amis et alliés belges à appréhender et juger les responsables. Il a aussi appelé à l'unité sans tenir compte des questions de nationalité, de race ou de foi dans la lutte contre le terrorisme.
En Côte d'Ivoire, au moins 15 personnes ont été arrêtées. Le principal suspect est activement recherché dans le cadre de l'enquête sur l'attaque djihadiste du 13 mars qui a fait 19 morts à Grand Bassam, une station balnéaire proche de la capitale. C'est ce que rapporte l'AFP, citant le procureur d'Abidjan, Richard Adou, et le ministre ivoirien de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko.
Au Niger, la commission électorale vient de publier les résultats du second tour de la présidentielle, confirmant les prévisions qui donnaient le président sortant Mahamadou Issoufou largement vainqueur face à l'opposant Ama Amadou, notre envoyé spécial Bagassi Koura.
Ce qu'on peut retenir, c'est d'abord le taux de participation, 59%, parce que vous savez que le jour des élections, il n'y avait pas assez de monde ici à Niamey. Et donc, beaucoup se posaient la question comment allait être ce taux de participation. Eh bien, selon la CENI, ce taux de participation se situe autour de 59%. Et le président Issoufou Mahamadou, sans surprise, a lui été réélu avec 92% des voix.
Faut-il voir dans ce succès les conséquences du boycott de l'opposition?
Oui, évidemment. Le boycott de l'opposition a donc facilité la tâche aux partisans de la coalition au pouvoir qui n'avaient personne pratiquement en face. Et donc, ça a facilité donc cette victoire. Une victoire qui ne plaît pas à tout le monde, surtout à ceux qui ne sont pas allés voter, notamment le camp de l'opposition.
Voilà, c'était Bagassi Koura, notre envoyé spécial à Niamey.
Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso est en tête de la présidentielle avec 67,02% des voix selon des résultats partiels portant sur 59% des suffrages. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la Commission nationale électorale indépendante.
Arrestation et intimidation des leaders d'opinion à N'Djamena au Tchad. Trois responsables de la société civile sont en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire. André Kodmajinga.
Nadio Kaina, porte-parole du mouvement citoyen INA en arabe local, qui veut dire « nous sommes fatigués », recherché depuis hier, est arrêté ce matin par la police nationale. Son arrestation fait suite à l'appel de son organisation à une manifestation pacifique ce mardi 22 mars sur l'ensemble du territoire national pour dénoncer l'injustice sociale que le pouvoir en place impose au peuple tchadien depuis bientôt 26 ans. Younous Mahadjer de la plateforme Ça suffit, qui a intervenu ce matin sur la VOA au sujet de l'arrestation de son collaborateur Mohamed Nour Ibedou, a été lui aussi arrêté ce mardi matin. Leur plateforme Ça suffit appelle les Tchadiens à une manifestation pacifique d'ici le 29 mars si le président sortant Idriss Déby Itno ne retire pas sa candidature à la magistrature suprême. André Kodumadjingar, à l'ouest du Tchad, pour la VOA Afrique.
Au Burundi, le lieutenant-colonel Darius Ikurakure, chargé de la sécurité dans la commune de Ntahangwa, au nord de Bujumbura, a été tué ce mardi par une personne armée dans les enceintes de l'état-major de l'armée burundaise. L'armée a fait savoir que l'assassin, qui portait une tenue militaire, s'est échappé.
Référendum constitutionnel au Sénégal. Le oui a remporté avec plus de 62% des voix le référendum donc constitutionnel de dimanche au Sénégal, visant notamment une réduction du mandat présidentiel. Un scrutin marqué par une participation de moins de 35% selon des résultats provisoires publiés mardi par les médias.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le président Barack Obama met fin aujourd'hui à sa visite historique à Cuba par un discours adressé au peuple cubain et délivré au Grand Théâtre de La Havane en présence du président Raúl Castro et de nombreux dignitaires du Parti communiste cubain. Barack Obama a aussi appelé à la levée de l'embargo commercial adopté il y a des décennies par les États-Unis contre Cuba, embargo qu'il a qualifié de fardeau dépassé imposé au peuple cubain. Après Cuba, M. Obama avait prévu de se rendre en Argentine.
Yémen, des raids de la coalition menée par l'Arabie Saoudite ont fait des dizaines de victimes dans les rangs d'Al-Qaïda, selon un responsable cité par l'AFP. Par ailleurs, Abdel Malak Al-Meklafi, le ministre yéménite des Affaires étrangères, se dit confiant à 99% qu'un nouveau round pour parler de paix inter-yéménite se tiendra avant la fin du mois de mars au Koweït.
Le gouvernement palestinien a annoncé l'interdiction d'entrée sur son territoire des produits de 5 entreprises agroalimentaires israéliennes, affirmant agir en réciprocité après une décision similaire de l'État hébreu.
Un imam chiite saoudien a été arrêté pour avoir glorifié le puissant mouvement libanais Hezbollah, a déclaré organisation terroriste par les autorités de Riyad. C'est ce qu'a rapporté mardi un journal saoudien. L'imam Hussein Al-Radi a été arrêté à Al-Assa, dans la province orientale de l'Arabie saoudite, où se concentre la minorité chiite de ce royaume à majorité sunnite, a précisé le quotidien Al-Watan. Selon le journal, l'arrestation s'explique par le fait que ce religieux a glorifié le Hezbollah terroriste et insulté le royaume dans une vidéo qui a connu une grande circulation.
La pilote militaire Nadia Savchenko vient d'être condamnée à 22 ans de prison. Cette Ukrainienne a été reconnue coupable aujourd'hui par la justice russe d'avoir fourni à l'armée ukrainienne la position de deux journalistes de la télévision publique russe tués par un tir de mortier dans l'est séparatiste de l'Ukraine en juin 2014.
Enfin, cette histoire étonnante en Allemagne, un responsable du parti néo-nazi allemand NPD, victime d'un accident de voiture, a été secouru par deux réfugiés syriens qui sont toutefois partis avant l'arrivée des pompiers. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et sur voaafrique.com.
La Minute Écho avec John Lennon.
Au Cameroun, Samuel Eto'o devient l'ambassadeur de la filiale camerounaise de l'opérateur téléphonique MTN après avoir longtemps prêté son image au concurrent Orange Cameroun. Les clients de MTN ont été bombardés de messages durant le week-end. Depuis le 21 mars, les réseaux sociaux sont envahis par des publicités de Samuel Eto'o vantant la marque sud-africaine. Au Maroc, le tribunal de commerce de Casablanca a ordonné la liquidation de l'unique raffinerie pétrolière du royaume, incapable de rembourser ses plus de 4 milliards d'euros de dettes. Cette décision de justice intervient après une première tentative de règlement qui n'a pas convaincu les créanciers de la société anonyme marocaine et italienne de raffinage, selon une source judiciaire. En Afrique du Sud, Jacob Zuma a été accusé jeudi au Parlement d'être sous l'influence de la famille Gupta, une grande famille d'affaires d'origine indienne, qui serait allée jusqu'à intervenir dans l'attribution des postes ministériels à certaines personnalités et intervient dans les choix économiques et stratégiques du pays. Soulignons que le président sud-africain est déjà sous le coup d'une décision de justice à propos de la rénovation de sa villa secondaire estimée à 20 millions d'euros. S'il est condamné, il devra rembourser cette somme.
Merci, John Lennon.
Et maintenant, notre page sport, présentée aujourd'hui par Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonsoir Claire.
Et on démarre par le foot. Là aussi, on parle des attentats de Bruxelles, Nicolas.
Dieu merci Mbokani, l'attaquant congolais de 30 ans, était présent à l'aéroport de Zaventem mais n'a pas été blessé suite aux explosions meurtrières aujourd'hui à Bruxelles. C'est son club Norwich City qui l'a confirmé sur son site officiel. Le joueur prêté par le Dynamo de Kiev est sain et sauf, mais choqué. Le club est en dialogue continu avec Dieu merci qui est retourné chez lui auprès de sa famille, poursuit le communiqué. Je vous rappelle que Mbokani était en partance pour Kinshasa où il devait affronter l'Angola samedi avec les Léopards dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Les qualifications de la CAN 2017 reprennent mercredi.
Les 3e et 4e journées des éliminatoires marquées par les grands débuts d'Hervé Renard samedi à la tête du Maroc. Renard remercié à Lille. Aura-t-il la même réussite qu'avec la Zambie et la Côte d'Ivoire qui l'a mené au titre suprême africain? Nous verrons bien en tout cas dès demain dans le groupe C, Sud-Soudan contre le Bénin. Dans le groupe G, le Tchad contre la Tanzanie. Dans le groupe F, Sao Tomé et Principe contre la Libye. Et puis dans le groupe E, Guinée-Bissau, Kenya et Zambie, Congo. On rappelle que les premiers de chacun des 13 groupes sont qualifiés, ainsi que les deux meilleurs deuxièmes, et le Gabon évidemment en tant que pays organisateur.
On passe à l'athlétisme.
Le Kenya a jusqu'au 5 avril pour fournir à l'Agence mondiale antidopage des éléments concernant sa nouvelle politique antidopage. Si le pays ne se conforme pas aux règles de l'AMA, ses athlètes pourraient être privés des Jeux olympiques de Rio cet été.
Usain Bolt court toujours plus vite.
Le sprinteur jamaïcain Usain Bolt veut, en cette année olympique, abaisser son record du monde du 200 mètres sous les 19 secondes. C'est la chose que je veux le plus au monde car c'est l'un de mes objectifs. J'en parle depuis toujours et je l'ai toujours voulu. J'attends ça de pied ferme, a-t-il prévenu.
Enfin, quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
San Antonio battu par Charlotte 88-91. De son côté, Golden State s'est remis de sa défaite du week-end en allant s'imposer sur le parquet de Minnesota 109-104. À Cleveland, LeBron James a réussi le 41e triple-double de sa carrière lors de la victoire face à Denver 124-91.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg et chérubin Gaby Dorsil, toujours en votre compagnie, place au dossier du jour. Et première escale, Gaby, évidemment, la Belgique.
Actualité oblige. Attentat à Bruxelles, nous en avons parlé dans le journal. Deux explosions à l'aéroport international et une autre dans une station de métro ont endeuillé la capitale belge. Le bilan provisoire est de plusieurs dizaines de morts. On parle de 30, tantôt 34, et plus de 200 blessés. Le groupe État islamique a revendiqué ces attaques. Le Premier ministre belge Charles Michel a déploré ce qu'il appelle un moment de tragédie, un moment noir pour la Belgique. Nous redoutions un attentat et c'est arrivé, a dit M. Michel lors d'une conférence de presse aux côtés du procureur fédéral belge. Après les explosions à l'aéroport de Zaventem et dans une rame de métro du quartier européen. Dans cette rame de métro se trouvait Alphonsine Sorozo.
L'explosion a eu lieu à cette station-là. On était tous sous les chocs, on avait une boule de feu. Heureusement, c'était à l'extérieur, on voyait la boule de feu derrière. Puis bon, la panique, on s'est levé. Le temps de trouver une issue de sortie, il y a eu une deuxième explosion. Et là, bon, les vitres, on a commencé à casser les vitres pour pouvoir s'extraire des voitures et métros. Donc on est sorti, on cherchait la première sortie pour accéder à la surface.
Vous avez vu des morts?
Ah oui, oui, oui. Déjà dans les tunnels, oui, oui. À ma gauche, j'ai vu un homme qui était étendu, il était déjà mort. Je suis sortie. Il y avait des morceaux de chair humaine. L'horreur qu'on voit quand il y a des attaques, c'était une vision apocalyptique. Je suis sortie par la chaussée de Terbeek. Et puis j'ai été voir du côté de rue Joseph II. C'est là où j'ai vu tous les blessés qu'on avait pu déjà sortir. C'était horrible, c'était horrible.
Et comment vous avez fait pour rentrer?
Mais pour rentrer, c'était encore plus difficile parce que tous les quartiers étaient bouclés. Je suis remontée vers la rue de la Loi, tout était bloqué. Et quand je suis arrivée à une station de métro, donc tout était bloqué. Les ponts partaient à vide, les stations de métro étaient à vide. J'ai marché, chez moi, j'ai fait 2 heures de marche. C'est parce que les taxis, on n'en trouvait pas non plus. Donc, c'était la pagaille, les magasins fermés. Je pense que chacun passait plutôt à rentrer chez soi. Il n'y a personne, qui pouvait faire quoi que ce soit.
Et aujourd'hui, à quoi ressemble Bruxelles alors?
Écoutez, Bruxelles, tout ce qui résonne dans la ville, c'est plus les ambulances qu'autre chose. C'est des ambulances. Et la ville est une ville morte. Il n'y a rien. Tout est à l'arrêt, l'aéroport est fermé, bon, les hôpitaux sont saturés. Les rendez-vous pour d'autres personnes, la plupart sont annulés parce qu'on doit assurer sans doute le plus urgent, les blessés. C'est terrible.
Au micro d'Idriss Fall, Alphonsine Sorozo, témoin de l'attentat au métro de Malbec à Bruxelles.
Dans Washington Forum cette semaine, la visite historique de Barack Obama à La Havane. De l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir à ce premier voyage d'un président américain depuis 90 ans. Retour sur un demi-siècle de relations conflictuelles entre les États-Unis et Cuba. Après l'embargo, quel avenir? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Tatiana Mosso présente Washington Forum.
Et menaces terroristes, terreur terroriste également en Afrique de l'Ouest. En moins de 10 jours, 2 attaques ont été perpétrées en Afrique de l'Ouest. Les organisations de la société civile estiment que les efforts consentis par les différents gouvernements sont insuffisants et proposent des pistes en vue de limiter ces attaques qui nuisent au développement de la région. De Lomé, le reportage de notre correspondante Kaïl Osson.
4 mois après l'attentat à l'hôtel Radisson Blu à Bamako le 20 novembre 2015, la capitale malienne vient d'être victime d'une nouvelle attaque terroriste. Entre les deux attaques, le terrorisme est passé par deux villes de l'Afrique de l'Ouest, Ouagadougou au Burkina Faso le 15 janvier et Grand Bassam en Côte d'Ivoire le 13 mars dernier. Des attentats insoutenables pour la société civile qui amènent le réseau ouest-africain d'action sur les armes légères Razalao à se poser des questions. Amadou Moussa Maïga, président de Razalao Mali.
Nous avons besoin de savoir qui finance ces gens-là qui utilisent les armes pour tuer, pour détruire ce sur quoi nous nous espérons pour développer chez nous. Qui les finance? Où est-ce que ça vient ces armes? Comment est-ce que malgré les dispositions prises au niveau des frontières, ils arrivent à traverser? Comment? Qui est complice?
Bakar Dia, responsable de CEPT, une ONG mauritanienne active dans la lutte contre la prolifération illicite des armes et la criminalité transfrontalière, indique que la porosité des frontières ouest-africaines facilite la circulation des armes qui sont utilisées à des fins terroristes.
Je crois que si on arrivait à contrôler mieux les armes, on aurait dû quand même se passer de beaucoup d'attentats. La situation est la même maintenant partout. Des frontières poroses. Il y a une particularité sur laquelle nous devons sensibiliser tout le monde. C'est que le danger maintenant vient de l'interne. Les groupes sont à l'intérieur des pays. Donc les États doivent redoubler d'efforts. Il doit y avoir un partage d'informations, un partage de stratégies pour endiguer ce phénomène.
Dans cette lutte, Interpol appuie les pays ouest-africains dans le partage des informations et le renforcement de la collaboration. John Hajman, coordinateur du programme sur les armes à feu à Interpol.
Cooperation is the number one goal.
La collaboration est le premier pilier sur lequel les pays de l'Afrique de l'Ouest doivent compter pour lutter contre les attaques terroristes. Interpol va leur donner des appuis nécessaires pour renforcer leur système de renseignement. Et ce système doit être basé sur une collaboration mutuelle. Lorsqu'un pays détient une information, il doit la faire partager avec tous les autres pays. Nous allons y travailler ensemble. Pour le président de Razalao Mali, il est temps que les populations de cette région africaine prennent en main leur propre sécurité en devenant des agents de renseignement. La recrudescence des attaques terroristes ces derniers mois en Afrique de l'Ouest met les autorités togolaises sur le qui-vive. Elles ont renforcé la sécurité au niveau des grands hôtels et points stratégiques de la ville de Lomé. En l'espace d'un mois, les forces armées togolaises ont organisé deux exercices de simulation d'attaques terroristes. Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Niger, la CENI a publié aujourd'hui les résultats tant attendus du second tour de la présidentielle. Le président Mahamadou Issoufou est réélu avec plus de 90% des suffrages exprimés. Notre envoyé spécial à Niamey, c'est Bagassi Koura.
L'un des leaders de l'opposition, Amadou Aboubakar Cissé, donc a déclaré que la Cour constitutionnelle devrait respecter le délai des recours qui est de 15 jours. Sinon, l'opposition appelait à une résistance civile, donc une résistance populaire à partir du 1er avril. Le 1er avril, vous savez, c'est la fin officielle du mandat du président Mahamadou Issoufou. Et l'opposition, bien sûr, a réitéré sa volonté de ne pas reconnaître les résultats donc, de ce scrutin du 20 mars. L'opposition qui appelle donc ses militants à être prêts pour des manifestations, notamment à partir du 1er avril, pour contester ce nouveau pouvoir et toutes les institutions issues de ces élections.
Lorsque l'opposition parle du délai légal pour les recours, entend-elle en introduire quand bien même elle a boycotté le second tour?
Oui, c'est ce qu'on a cru comprendre. L'opposition qui a bien boycotté le second tour entend introduire des recours. Et l'opposition a même des chiffres, même si elle n'avait pas de représentants dans les bureaux de vote. L'opposition estime que le taux de participation que la CENI a estimé à près de 59%, l'opposition estime que ce taux-là est autour de 11%. Et donc l'opposition va se baser sur un certain nombre d'informations de ce genre pour introduire des recours auprès de la Cour constitutionnelle et veut que la Cour respecte le délai de 15 jours, ce qui va obliger à aller au-delà donc du mandat de Issoufou qui devrait finir au plus tard le 1er avril.
S'achemine-t-on vers l'épreuve de force entre l'opposition et le pouvoir dans ce cas?
Oui, c'est cette impression qu'on a, hein, parce que les camps sont quand même assez tranchés. On a vu tout à l'heure, lors de la proclamation des résultats, les partisans du pouvoir qui ont tout de suite applaudi, qui vont certainement célébrer dans la soirée cette victoire de Amadou. Pendant que de l'autre côté, on ne compte pas du tout sur ces élections. On pense que ça a été un non-événement et donc que Issoufou n'a pas été réélu et il devrait donc remettre en cause son mandat parce que l'opposition parle d'une période de transition pour organiser des élections beaucoup plus démocratiques selon elle.
Bagassi Koura, envoyé spécial de VOA Afrique à Niamey au Niger.
VOA Afrique au Niger à Niamey. 24 heures sur 24 sur 102.5 FM.
Discours du président Barack Obama aujourd'hui à La Havane. Un discours qualifié de message de paix au peuple cubain à l'occasion de sa visite historique sur l'île communiste. Idrissa Sedoudia.
Actualité oblige, le président Obama a tenu d'abord à rendre hommage aux victimes des attentats terroristes d'aujourd'hui à Bruxelles. Il a exprimé sa profonde indignation face à ces attaques contre des innocents en condamnant fermement ces attentats terroristes.
We will do whatever is necessary to support our friend and ally Belgium.
Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour notre ami la Belgique pour traduire en justice ceux qui sont responsables de ces actes. Monsieur Obama a appelé le monde à s'unir face à ceux qui menacent la sécurité des peuples à travers le monde. Il s'était entretenu auparavant avec le premier ministre belge, Charles Michel, pour lui exprimer son soutien. Barack Obama a ensuite reconnu les difficultés dans l'histoire des relations entre Cuba et les États-Unis.
Havana is only 90 miles from Florida.
La Havane ne se trouve qu'à 145 kilomètres de la Floride. Mais pour arriver ici, nous avons dû traverser une grande distance au-dessus de barrières d'histoire et d'idéologie, des barrières de douleur et de séparation, a déclaré M. Obama. Il a reconnu que les divergences entre Washington et La Havane sont réelles et elles sont importantes. Mais, a déclaré le président américain, les deux parties peuvent encore aller de l'avant avec une normalisation historique des relations.
I have come here. To bury the last remnant of the Cold War.
Je suis venu ici pour enterrer les dernières séquelles de la guerre froide dans les Amériques. Je suis venu ici pour tendre la main de l'amitié au peuple cubain. Barack Obama a aussi appelé à la levée de l'embargo commercial adopté il y a des décennies par les États-Unis contre Cuba, embargo qu'il a qualifié de fardeau dépassé imposé au peuple cubain. Il est temps de le lever, s'est-il écrié. Simultanément, le président américain a critiqué le gouvernement cubain, soulignant que même si l'embargo était levé, le peuple cubain ne serait toujours pas en mesure de réaliser son potentiel en l'absence de réformes démocratiques. Les gens devraient pouvoir critiquer leur gouvernement et choisir ceux qui les gouvernent, a déclaré M. Obama. Pour rappel, le Congrès des États-Unis peut lever l'embargo et il est contrôlé actuellement par les adversaires républicains de M. Obama qui ne sont pas d'accord avec le changement de politique envers Cuba.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, on remercie Joselle Morissin. À la console, Robert Wagner. Présentation, Claire Morin-Gibourg et chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez-nous des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM, Raga FM, Kinshasa, Soleil FM, Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.